en Ile-de-France.
Écoutez IDFM
sur 98FM. IDFM,
toujours plus proche de vous.
Bonjour à toutes et à tous, Audrey Lamolie et je suis ravie de vous retrouver sur IDFM dans l'émission La Parole aux Associations, une émission dédiée aux associations et à ceux qui les font vivre. Cette semaine, je reçois l'association Au Petit Cœur, crèche associative agréée entreprise solidaire d'utilité sociale, qui accueille chaque année 22 enfants âgés de 10 mois à 3 ans sur la ville de Beaune. Pour nous parler des actions d'Au Petit Cœur, j'accueille ce matin Tania Didier, cofondatrice, ancienne présidente de l'association et aujourd'hui responsable du développement, et Touria Benmania, directrice de la crèche Au Petit Cœur. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour. Bonjour.
Au sommaire de cette émission, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur nos invités dans la rubrique Portrait d'engagé. Puis Tania et Touria nous présenteront plus concrètement ce que propose l'association. Et en dernière partie d'émission, vous nous parlerez des projets de l'association, notamment ses projets de développement. Alors tout d'abord, Tania, Touria, je vous propose de faire votre portrait d'engagé pour mieux faire votre connaissance, si bien sûr vous êtes d'accord.
Oui.
Eh ben c'est parti. Peut-être Touria, est-ce que vous pourriez commencer par nous présenter votre parcours en dehors d'Au Petit Cœur?
En dehors de Petit Cœur, d'accord. Alors moi je suis infirmière de métier, donc j'ai toujours travaillé avec les enfants, avec les nouveau-nés, même les prématurés. J'étais infirmière en service de néonat où j'ai travaillé pendant près de 8 ans. Et après j'ai continué ma carrière en crèche, puis en centre maternel et de nouveau en crèche et j'y suis depuis 2016.
Et alors donc vous avez toujours finalement travaillé avec des petits?
Tout à fait.
Vous savez d'où ça vous vient? Vous êtes issu d'une famille nombreuse?
On est 4 enfants. c'est vrai que j'ai toujours été attirée par même élève infirmière, je demandais à ma responsable de crèche de me mettre en pédiatrie à tout prix. Même s'il fallait faire d'autres services, j'étais attirée par
c'est
par
un
les
public
enfants.
Qui vous plaît.
Tout à fait, leur spontanéité, leur j'aime beaucoup.
Et alors le métier d'infirmière, pareil. Qu'est-ce qui vous a plu dans ce métier-là?
C'est la relation humaine, c'est d'être pouvoir aider, apporter quand même un petit peu de soins aux gens malades. C'est vraiment le côté humain.
Vous n'êtes plus infirmière aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous dites bon, j'arrête d'être infirmière à l'hôpital ou en clinique, et puis je m'oriente plutôt vers de la direction de crèche.
Bah c'est en tout cas dans mon cas, c'est plus les conditions de travail qui m'ont fait arrêter l'hôpital. Le fait de travailler des fois de nuit, de faire des remplacements, de changer des fois même de service, travailler les week-ends. À un moment donné de ma vie, j'ai dû quand même faire un choix et d'être un peu plus posée avec des horaires qui me convenaient mieux.
Merci Touria.
Merci.
Et vous Tania, d'où venez-vous? Que faites-vous en dehors d'Au Petit Cœur?
Alors moi je suis juriste de formation, donc j'ai travaillé sur la prévention de la délinquance sur une antenne du ministère de l'Intérieur quand j'ai terminé mes études de droit. Je me suis spécialisée en fait en droit de l'homme et droit humanitaire, donc j'avais déjà choisi la branche sociale du droit. Et j'ai arrêté pendant un moment de travailler pour élever mes enfants. Donc j'ai arrêté pendant plusieurs années et pendant ces années le projet a germé dans ma tête, mais on en parlera tout à l'heure.
Et alors on peut peut-être même en parler progressivement parce que votre histoire professionnelle, personnelle est très liée à la création d'Au Petit Cœur. Vous arrêtez de travailler pour vous occuper de vos enfants, vous avez 4 enfants, c'est ça?
Oui.
Est-ce que vous cherchez un mode de garde à ce moment-là ou vous dites non, là vraiment j'arrête et puis je me consacre à mes enfants?
Alors, j'étais à Paris quand notre aîné est né, et donc je travaillais encore au ministère. Donc je suis arrivée sur Aubonne, entre autres parce que évidemment j'avais aucune solution de garde sur Paris. Ayant grandi à Aubonne, je connaissais le lieu, et voilà, c'est une ville qui nous plaisait aussi. J'ai fait émerger, c'est-à-dire que à Paris, j'avais quand même vu une crèche parentale dans le 15e, là où on habitait, et qui m'a quand même bien interpellée, parce que je trouvais que le fonctionnement était quand même chouette avec cette place des parents. Et je me suis dit, en arrivant en Bonne, bien sûr, j'ai pas eu de place en crèche et j'ai mis ma fille chez une assistante maternelle. Mais petit à petit, voilà, ce projet a germé et j'avais du mal en fait à trouver cet équilibre. Voilà, j'avais l'impression d'être à moitié au travail, à moitié avec ma fille. Et c'est vrai qu'après, pour les enfants suivants, j'ai fait un choix beaucoup plus radical, sans aucun regret évidemment. Hein. Si c'était à refaire, je referais.
Et alors, vous avez parlé d'une crèche parentale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le principe?
Alors c'est une crèche associative, donc qui était portée par une association, mais avec une place des parents importante, c'est-à-dire que pour qu'elle fonctionne, les parents donnent de leur temps. Alors parfois c'est une demi-journée, parfois c'est une journée toutes les deux semaines. Enfin ça dépend des structures. Et donc ils vont évidemment, ils ne remplacent pas les professionnels. Hein, ils n'ont pas le droit de s'occuper des enfants proprement dit, mais ils vont s'occuper des courses, ils vont s'occuper du linge, ils vont faire des petites choses annexes qui font partie du fonctionnement des structures.
Donc c'est une plus grosse participation des parents à la vie de la crèche finalement.
Tout à fait, et c'est une partie c'est une plus grosse participation, mais qui est surtout inhérente à la survie de la crèche. C'est-à-dire que ça remplace aussi des fonctions professionnelles quelque part qui sont indispensables. C'est-à-dire que sans cette participation des parents, la crèche ne peut pas tenir.
Et alors, est-ce que c'est cette histoire-là qui fait que d'abord le fait que vous ne trouviez pas de mode de garde suffisamment satisfaisant vos enfants, pour vous, pour vos enfants, qui fait que vous arrivez au projet de créer votre propre crèche?
Alors ça s'est pas fait. J'ai réfléchi effectivement en me disant mais en fait il y a beaucoup de personnes qui sont dans mon cas, donc il faut qu'on trouve une solution. Évidemment je m'étais dit je vais créer une crèche et puis peut-être que ça profitera à certains de mes enfants. Bon au final la crèche a ouvert alors que ma dernière allait déjà à l'école, donc c'était
ils en ont
trop
pas
tard.
Profité.
Non mais c'est pas grave. Voilà j'ai eu des réunions avec des cosy à côté de moi, mais non. Pas bénéficiaire en tout cas, mais ce projet j'avais pas, enfin quand j'ai émergé avec ce projet, j'ai à aucun moment je me suis rendu compte quand même de l'importance que ça allait prendre et de la difficulté quand même quelque part, donc ça prendrait des années, que voilà il y a eu des quelques pas en avant, quelques pas en arrière, mais je pense pas que j'avais conscience que ça serait quand même un vrai gros projet qui allait m'occuper autant.
Et c'est la première fois que vous créez votre propre association?
Oui, oui, oui. J'ai plus jeune, j'ai fait pas mal de bénévolat. Je viens d'une famille très engagée, ça a toujours été, c'était dans des structures purement bénévoles. En fait, il n'y avait pas de salariés à côté.
Vous aviez quel type d'engagement auparavant?
Alors je me suis engagée auprès des jeunes dans des mouvements d'église, voilà, donc dans du l'aumônerie avec des jeunes, dans le scoutisme beaucoup, ce qui est encore notre cas aujourd'hui avec mon mari. En tout cas, c'est des actions tournées vers les autres, tournées vers. Touria parlait de l'humain tout à l'heure. Effectivement, l'humain au cœur des actions, c'est quelque chose qui est viscéral.
Et alors, au final, vous êtes jamais revenue dans votre premier métier?
Et donc, je ne suis jamais revenue dans mon premier métier, même si je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Voilà, prévention de la délinquance, c'était un sujet en 2000 qui était assez novateur. On avait créé ça avec une magistrate. Mais je me voyais plus repartir sur des horaires très classiques, avec des allers-retours. Voilà, et laisser mes enfants, c'était pas concevable pour moi. Et j'ai eu la chance d'avoir le choix.
Alors vous n'êtes pas revenu sur votre premier métier, mais on va voir ensemble pendant l'émission que cette fibre sociale, elle est importante pour vous et dans la construction et le développement de votre crèche associative au petit cœur. Merci à toutes les deux, Tania et Touria, d'avoir bien voulu nous en dire un peu plus. Je vous propose de découvrir plus concrètement ce que propose au petit cœur, juste après avoir écouté Rosaline avec Snap sur IDFM. À tout de suite.
It's 4 a.m. I can't turn my head off, wishing these memories would fade and never do. Turns out people lie, they said just snap your fingers, as if it was really that easy for me to get over you. Just need time. Snapping 1, 2. Where are you? You're still in my heart. Snapping 3, 4. Don't need you here anymore. Get out of my heart. 'Cause I might snap. I'm writing a song that this is the last one. How many last songs are left? I'm losing count. Since June 22nd, my heart's been on fire. I've been spending my nights in the rain trying to put it out. So I'm snapping 1, 2. Where are you? Oh, I might stop talking to people before I snap, snap, snap. Oh, I might stop talking to people before I snap. Snapping 1, 2, where are you?
Sur IDFM, dans l'émission La Parole aux Associations, je reçois ce matin Tania Didier et Touria Benmania de la crèche associative Au Petit Cœur. Alors Tania, avant qu'on parle du fonctionnement et de la spécificité aussi de la crèche Au Petit Cœur, est-ce que vous pourriez nous raconter un petit peu comment finalement on met en place une crèche ? Parce que ça semble être un immense projet. C'est pas rien, une crèche, j'imagine qu'il y a plein de contraintes, plein de critères, plein d'étapes à franchir. Comment vous avez procédé?
Alors la première chose, c'est déjà, c'est que je voulais pas rester seule. Donc il fallait que je m'entoure. Je m'entoure déjà pour porter le projet en soi, et puis ensuite d'aller frapper aux portes des personnes compétentes pour nous aider sur toutes les parties où on n'avait pas les capacités. Donc ça a commencé par j'ai rencontré des personnes à l'halte garderie où était mon fils, et donc j'ai parlé un petit peu de ce projet avec une dame qui est devenue d'ailleurs la première secrétaire de l'association et qui m'a assez vite mis en relation avec Célia Oliveira, qui est la présidente actuelle, et qui a été bien sûr cofondatrice avec moi et qui a été trésorière avant de devenir présidente. Donc ça, c'était la base. Et puis on s'est assez vite tourné vers la ville d'Aubonne parce que pour nous, un projet social comme celui-là, il était forcément en partenariat avec la ville sur laquelle on s'implantait. Et puis on avait besoin d'un local. C'est-à-dire que on savait que la clé d'ouverture, elle dépendait du lieu où on allait s'implanter.
Donc vous n'allez pas démarcher entre guillemets ou présenter votre projet à d'autres villes. Vous misez tout sur Aubonne dans un premier temps.
Alors on a commencé à Aubonne parce que moi c'était ma ville et puis on a vu qu'ils étaient hésitants au départ. Ils étaient hésitants parce qu'on était parti avec un projet de crèche parentale, crèche associative parentale. Et là ils nous ont dit franchement le turnover des parents, nous on n'y croit pas trop. Qu'est-ce qui se passe si jamais vous ne vous en sortez pas?
Ça veut dire que les parents s'investissent pas vraiment non plus.
Voilà, et puis surtout ils s'investissent à court terme. Enfin après dès que leur enfant va à l'école c'est fini. Donc voilà, la mairie était quand même un peu frileuse au départ. Donc on est allé voir quand même les villes voisines, notamment Andilly, on est allé voir Montmorency, on est allé voir Saint-Prix. Et puis bon voilà, il y avait pas de besoin véritable et vraiment je crois qu'on moi c'était important que je revienne sur ma ville. Donc on n'a pas lâché. On les a un peu harcelés et puis sur Aubonne, il y avait des besoins Aubonne est quand même près de une grosse gare, il y avait des besoins qui étaient quand même je pense plus importants que dans les villes voisines qu'on avait sollicité. La troisième cofondatrice nous a rejoint rapidement, grâce à la mairie d'Aubonne d'ailleurs, qui nous a donné son contact, c'est Betty Van Ecoot, qui venait de terminer sa mission d'élue adjointe à la petite enfance de la ville de Saint-Prix, où elle avait été pendant pas mal d'années et où elle avait monté tout le projet de maison de l'enfance de la ville.
Oui, donc une belle expertise sur la création de structures d'accueil.
Exactement. Donc là déjà, on avait notre référente pour tout ce qui était compétences techniques pour démarrer.
D'accord. Donc là, vous vous entourez.
Exactement. Déjà.
Et ensuite,
on commence par aller voir les partenaires indispensables, la CAF. Alors Initiative 95, donc qui a été effectivement extrêmement important dès le départ parce que donc Initiative 95, pour ceux qui le connaissent pas, c'est ils sont vraiment là pour aider les porteurs de projets, créateurs d'emplois. Et donc à l'époque ça s'appelait Prisme 95 d'ailleurs. Et donc ils nous ont ça a été extrêmement important parce que dans les moments il y a eu des moments de doute, hein, des moments où on avait envie de faire marche arrière. Ils ont toujours été ils nous ont aidés en fait à tenir et à dire que fallait aller de l'avant quoi.
Et en fait, cette structure, elle vous a certainement aidé donc à finalement à modéliser un peu, à formaliser votre projet, à avoir un montage financier, un modèle économique viable pour présenter ensuite aux partenaires. Et puis je crois qu'Initiative 95 aussi permet facilite des prêts. Notamment un taux zéro qui permet de se lancer à moindre coût lorsqu'on a une activité de ce type-là notamment.
Oui, alors à moindre coût mais surtout avec moins de risques. Donc ça c'était important parce qu'on était 100% bénévole et on pouvait pas se permettre moi j'avais arrêté de travailler, Célia elle sortait de ses études juriste également. Elle sortait également de ses études et elle cherchait un travail. On ne pouvait pas se permettre en fait de prendre des risques financiers trop importants. Donc ça c'était important et puis la ville d'Aubonne assez vite nous a dit que de toute façon on partirait sur aussi une aide municipale. Donc grâce à Initiative 95, on a pu avoir un DLA. DLA c'est diagnostic local d'accompagnement sur notamment toute la partie financière pour établir les budgets prévisionnels etc., voir quels étaient les besoins. Ça nous a aidé à frapper à d'autres portes. On est allé frapper aux portes des Rotary, des Lions Club, on a été frappé partout où on pouvait.
Pour aller chercher des financements de lancement et d'investissement.
Exactement, pour aller chercher des lancements d'investissement. Et puis la PMI aussi a été extrêmement importante parce que de toute façon on savait que c'était au final qui nous donnait l'agrément la veille de l'ouverture. Et donc il fallait rentrer dans toutes les cases. qui on a eu comme partenaire encore, le CSA, service de, centre de services aux associations, nous a bien aidé aussi au départ pour rédiger les statuts, pour parce que évidemment il a fallu créer l'association, c'est ce qu'on a fait en premier. Hein. Voilà, le CSA nous a bien aidé là-dessus et il nous a aidé encore aujourd'hui puisque c'est lui il y a 3 ans qui nous a créé notre site internet.
Alors j'imagine que une des choses les plus dures, alors, pas forcément les plus dures parce que j'imagine que dans ce genre de projet, de tout gérer en même temps, à la fois le montage financier, bien s'entourer, mais il y a quand même une partie importante, fondamentale pour que le projet voie le jour, c'est le local. Du coup, ce local, il vient d'où ? Comment ça s'est passé, votre recherche de local ?
Alors, c'est ça qui nous a fait prendre du temps, quand même, puisque l'association a été créée en décembre 2007 et la crèche a ouvert en septembre 2013. Bon, alors, entre-temps, j'ai eu des naissances, c'est vrai, donc j'ai aussi levé le pied un peu. Célia également, et puis elle a commencé à travailler. Betty était toujours derrière nous à fond. Donc, le local, c'est la vie. En fait, la ville de Bonne a compris dès le départ qu'on partirait ensemble pour trouver un local. Elle nous a dit à condition de ne pas créer une crèche parentale, mais une crèche associative classique. Donc, on a dit aucun problème. C'était plus raisonnable. Au départ, ils avaient trouvé un local, une ancienne école. Alors, on avait fait venir des techniciens pour des travaux. Finalement, la PMI, le médecin référent de la PMI, nous a dit qu'en fait, ben non, il y avait encore plus de travaux à prévoir. Donc, ça doublait le prix des travaux. Donc là, 3 pas en avant, 10 pas en arrière. Et finalement, la ville a construit le local dans lequel nous sommes aujourd'hui et que nous louons sur un terrain municipal. Donc c'était créé par les services techniques de la ville, mais on a pu quand même donner nous notre avis sur pas mal de choses, notamment des critères. Voilà.
J'imagine qu'il y a des critères non négociables dans un local qui doit accueillir une crèche. C'est quoi ? C'est la superficie, les normes électriques ?
Oui, on est sur des superficies en fonction du nombre d'enfants qu'on accueille. Il nous faut des pièces pour pouvoir accueillir des enfants qui dorment, donc des dortoirs, des pièces techniques, hein, la cuisine, je pense notamment à la cuisine.
Pour stocker les produits ménagers.
Voilà.
Le bureau de la directrice.
Exactement. Des fois, on aimerait bien même pousser les murs parce qu'on trouve toujours qu'on n'a pas assez de place. Mais en soi, je trouve que cette crèche, est quand même plutôt bien faite et accueillante.
Et puis alors, en préparant l'émission, Tania, vous m'avez parlé aussi d'un autre partenariat, parce que finalement, vous arrivez quand même assez formidablement bien à négocier et associer plein de partenaires différents. Cette histoire de repas,
et oui.
Racontez-nous.
Alors effectivement, bon, il nous manquait des sous. Hein. Il nous manquait des sous et puis on avait appris en plus que le conseil départemental ne finançait plus les structures petite enfance, alors que nous, notre budget prévisionnel le prenait ça en considération. Donc l'hôpital d'Aubonne, en fait, en même temps, au moment de la création de l'association, l'hôpital d'Aubonne avait refait toute sa cuisine centrale et cherchait des petits partenaires. Donc moi j'avais lu ça dans les magazines locaux, donc voilà, j'y suis allée franco. Au début ils ont refusé en disant mais nous une crèche qui ouvre 8h-18h et puis pas les mercredis puisque c'était le cas au départ, franchement ça va pas intéresser nos personnels. Bon, ok. Et puis finalement ils sont revenus vers nous un an après en disant mais en fait dans le personnel de l'hôpital on a aussi des administratifs, on a aussi des gens qui ont des horaires classiques. Voilà, donc là on a commencé à négocier et on en est arrivé à la conclusion. C'était un échange de services contre 3 places, c'est-à-dire que ils nous livraient tous les repas, les goûters et même certains produits d'entretien en contrepartie de 3 places pour leur personnel.
Et c'est toujours valable aujourd'hui ?
Alors ça s'est arrêté. Enfin non. Alors oui, c'est toujours valable. C'est-à-dire qu'ils nous livrent toujours les repas, mais quand on a dû renouveler la convention 4 ans après, l'hôpital, financièrement parlant, ne pouvait plus se permettre. Donc on a gardé le lien avec eux parce qu'on est très content de leurs prestations. Ouais. Je crois que Touria, vous pouvez confirmer.
Oui, tout à fait.
Les repas.
C'est surtout les enfants qui vont confirmer.
et par contre, du coup, maintenant, c'est une prestation financière. en échange, mais par contre, il n'y a plus les 3 places réservées à l'hôpital. Ce qui était un petit peu un souci, parce que la ville d'Aubonne versait une subvention pour des Aubonnais. Et du coup, là, on leur disait, mais en fait, non, on a 3 places qui ne sont pas réservées aux Aubonnais, mais au personnel qui travaille à l'hôpital d'Aubonne.
Alors, avec le recul, ça y est, parce que ça y est, au petit cœur, existe, fonctionne très bien, je crois. Tania, quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui voudrait se lancer aussi dans la création d'une crèche associative? Faut commencer par quoi?
Je crois qu'il faut déjà être persévérant, patient. Et après, j'ai pas envie de dire qu'il faut forcément commencer par quelque chose. Il faut s'entourer. C'est bon, de toute façon, pour moi, un projet associatif, ça ne se fait pas seul. Mais il faut vraiment s'entourer de voilà. Il y a des, que ce soit la CAF, la PMI, l'initiative 95. Enfin, on trouve, je pense, partout des gens qui sont prêts à nous tendre la main. Et c'est ces personnes-là vers qui il faut se diriger.
Vous disiez persévérant. Finalement, ça a pris combien de temps, cette création de crèche?
Ben, je vous dis 2007-2013.
6 ans.
Voilà.
6 ans. Oui, donc il faut...
On aurait pu être plus rapide, peut-être.
Bah, je crois qu'il y a des projets de développement, vous allez nous raconter. Ouais. Je pense qu'une fois qu'on a l'expertise, on a essuyé quelques plâtres. Après, ça va peut-être un petit peu plus vite. Merci beaucoup. Je vous propose de poursuivre notre conversation et d'en savoir un peu plus sur le fonctionnement concret d'Opticœur, juste après avoir écouté Vianney et Ed Sheeran avec Call On sur IDFM. À tout de suite.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur, ils sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Quand dans la boîte c'est moi, t'étais pas là, que c'est bientôt les lacs du Connemara. Je tente de danser pour plus penser mes pensées le passé. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. Call on me, brother. Should let it be over. Every high, every low, they will come, then they go. To feel alive, you gotta take the blows, you know. Call on me, please, brother. It is the nights when I'm drunk that it hits me most. Feels like it opens up the door I was keeping closed. It comes in waves and then it settles. Say it will end, but I know it won't. Well, I've been in a right mess, God, yes, since you left me here alone. Every time your name gets brought up, I get caught with the tears that will overflow. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça. Sans la solitude, sans toi. J'avais l'habitude de tout ça. Je la sens la solitude sans toi. So you should call on me.
Call on me,
brother.
Brother.
Every high, every low, then we come, then we go. Still alive, you gotta take the blow, you know.
So call on me, brother.
Oh, 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 oh.
C'est l'heure où les videurs deviennent gentils, même avec les gens qui font peur, ils sont pas beaux la nuit. Ces pieds qui collent me donnent le sentiment qu'il faut qu'on dorme maintenant. Je fais comme si j'avais l'habitude de tout ça.
Je la sens la solitude sans toi.
Vous êtes bien sur IDFM en compagnie de Tania Didier, responsable du développement de la crèche associative Au Petit Cœur, et Touria Benmania, directrice de la crèche. Alors, Touria,
oui.
D'abord, est-ce que vous pourriez nous dire qui compose, qui fait partie de cette crèche associative ?
Qui fait partie de cette crèche ? Alors, on a, nous, on est une équipe de sept personnes, sept femmes.
Que des femmes.
Ouais. C'est un milieu un petit peu féminin, même si il y a dans certaines crèches quelques hommes, mais nous c'est exclusivement des femmes au quotidien auprès des enfants. Ensuite, on a des intervenants qui viennent à la crèche, sans qui on ne pourrait pas fonctionner comme on fonctionne aujourd'hui. On a un médecin de crèche, un pédiatre. On a une musicienne. On a une personne qui est bénévole de l'association qui vient lire des contes aux enfants. On a également une psychologue. Et c'est vrai qu'on est tous un peu acteurs finalement du bon fonctionnement et du bon accueil des familles et des enfants.
Et dans les salariés permanents, oui. L'équipe est composée d'une directrice, donc vous,
oui. Mm-hmm.
Et puis
j'ai trois auxiliaires et deux professionnels petite enfance qui sont au quotidien avec les enfants, et un agent d'entretien, une cuisinière agent d'entretien.
Très important,
ah oui.
Notamment dans une crèche.
Ah oui, oui.
Alors, on va pas se mentir non plus. Les modes de garde en France est quand même sous tension.
Oui.
Hein, il y en a quand même pas suffisamment.
C'est ça.
Avoir une place en crèche, c'est un peu le Graal pour les parents. Est-ce que vous êtes décisionnaire dans les acceptations des places ?
Non. On passe par la commission d'admission des places chaque année. Donc les parents peuvent pas venir s'inscrire directement au sein de la crèche Au Petit Cœur. Il faut qu'ils s'inscrivent à la maison de la petite enfance. Et après, on fait des commissions chaque année.
Voilà. Il n'y a pas de critères de sélection.
Alors les critères sont propres à la ville. J'ai pas connaissance, mais le premier critère, je pense, c'est la date d'inscription. Et je crois qu'elle est de plus en plus tôt. Les femmes enceintes s'inscrivent bien avant. Je crois que c'est au deuxième trimestre. Où elles s'inscrivent à la crèche pour leur futur bébé à naître.
Il y a même une légende à Paris, je ne sais pas si c'est vrai, où des femmes et des hommes font des demandes en crèche avant d'être enceintes. Non, c'est une légende
c'est
urbaine.
Une légende, je sais pas. Ça fait peur, mais c'est possible.
Tania.
Oui, juste pour compléter, effectivement, ce qu'a dit Touria sur les admissions, ça faisait partie de notre partenariat dès le départ avec la ville. C'est-à-dire que la ville, bien sûr, nous versait une subvention et en échange pour la totalité des places, et en échange, ils voulaient mettre vraiment les obonnais sur un pied d'égalité. Donc toutes les pré-inscriptions passent par la maison de la petite enfance.
Alors, à quoi ça ressemble une journée à Au Petit Cœur ? Donc déjà, vous avez 22 enfants.
Oui, 22 enfants par jour. Après,
d'accord.
Il y a 30, enfin cette année, j'ai 31 familles qui sont inscrites à la crèche.
Oui, parce que tous les enfants ne viennent pas forcément tous les jours.
Exactement, oui.
Donc ça permet comme ça d'ouvrir un petit peu plus de place.
Oui, oui, oui.
Et c'est à partir de 10 mois, j'ai vu ?
À partir de 10 mois, oui.
Pour quelle raison ? C'est un choix de votre part ?
Je crois qu'au départ, ça répondait à un besoin de la ville. C'est ça, Tania ?
Oui, parce que il y a pas mal de parents qui arrivent à prendre un congé parental de 6 mois. Enfin, quand on a ouvert la crèche, c'était encore un congé parental de 6 mois. Donc, les crèches municipales sont remplies avec les bébés qui vont chez les moyens. Mais ils se retrouvaient avec un problème de place, puisque tous les bébés allant chez les moyens, il n'y a plus de place pour les moyens.
Alors, comment ça se passe ? C'est ouvert de quand à quand ?
Alors nous, on ouvre du lundi au vendredi, puisque depuis quand, je sais plus.
2015, je crois.
Depuis 2015, on ouvre du lundi au vendredi de 8h à 18h. Pour répondre à votre question, ça se passe bien. Ça chante, ça lit,
il y a des sections,
danse.
Donc toujours
il y a deux
petit,
sections.
Moyen, grand.
Deux sections, oui, moyen et grand. Oui.
Ah oui, oui.
Il y a 10 enfants du côté de la section des moyens et 12 enfants du côté des grands. Nous, on tend de plus en plus vers une ouverture entre les deux groupes. Donc, c'est vrai que le matin, quand on accueille les enfants, on les accueille en groupe. Je perds mes mots, pardon.
En groupe mélangé.
En groupe mélangé, exactement.
Décloisonné.
Exactement, merci, pardon.
Et alors, au départ, vous aviez le projet d'ouvrir une crèche parentale. Là, c'est pas le cas. C'est une crèche associative, on dirait classique dans son fonctionnement. Mmh. Mais je crois que c'est important pour vous de garder du lien, entretenir ou faciliter du lien avec les parents.
Oui. Oui,
ça, parce que c'est pas forcément facile pour les parents aussi de parfois laisser son enfant toute la journée. Des fois, on est content d'avoir un mode de garde, mais on est aussi un peu contraint de laisser son enfant.
Tout à fait. Ouais, ouais.
Vous avez quel type de profil de parents ?
Alors, on a tout type de profil. On a des parents pour qui c'est vraiment difficile de laisser son enfant, en tout cas pour la première fois, et des fois ça peut perdurer. Donc, on doit travailler ce lien de confiance avec les familles. On a des parents qui sont plutôt confiants parce qu'ils ont déjà connu l'année d'avant, quand l'enfant était bébé, se séparer de son enfant auprès d'une assistante maternelle, par exemple, ou d'une autre crèche. Ça arrive aussi d'avoir des enfants qui viennent d'une autre crèche. Voilà, on a quand même des profils un petit peu différents. L'idée, nous, c'est en début d'année de faire une ce qu'on appelle une adaptation. Hein. Ça, c'est commun à toutes les crèches, normalement, et aux assistantes maternelles. Pardon. Et ce temps d'adaptation, de familiarisation, maintenant on l'appelle, consiste à accueillir l'enfant petit à petit à la crèche, de manière à ce qu'il puisse se repérer, se familiariser à nous, adultes, aux autres enfants qui sont présents, au lieu, voilà. Et pour les familles, c'est hyper important, et je crois que c'est ce qui détermine un petit peu le fil de l'année. Quand les liens commencent à se créer sur cette période-là, où les parents se rassurent et l'enfant se rassure aussi, en général, le reste de l'année se profile bien.
Et alors, quelle implication vous espérez ou vous essayez de faciliter pour les parents ? Il y a le côté accompagnement, accueil, information. Mm-hmm. Est-ce que vous proposez aux familles d'autres temps de partage ou d'investissement dans la crèche, même si ce n'est pas une crèche parentale?
Alors oui, en effet, il y a le quotidien, donc avec Touria, comme elle vient de l'expliquer, Yolène, Sophie, que j'oublie personne, Kadiata, Jessica et Anna. J'ai oublié personne.
Sophie,
pardon. Voilà, donc elles sont vraiment là dans le quotidien, et nous, l'association, on intervient, on essaie d'intervenir davantage sur des temps extra, c'est-à-dire des temps festifs, des temps là, par exemple, samedi prochain, nous avons une matinée ludique sur le thème du voyage, parce que l'équipe Touria avec son équipe a mis en place ce thème du voyage culturel en début d'année, donc c'est quand même un thème super chouette. Donc c'est ces temps festifs. Par contre, là, on a les enfants et les parents ensemble, et on est vraiment là juste pour créer du lien, c'est-à-dire pour profiter. Pour là, les parents savent qu'ils vont pas qu'ils vont pas bénéficier de d'un temps de garde.
Oui, on n'en profite pas pour se dire c'est super, c'est voilà. Samedi matin, je vais pouvoir faire autre chose. Non, c'est là, ça. C'est un temps où les parents viennent avec leurs enfants. Mmh. C'est un temps pour investir autrement. La crèche. Mm-hmm. Et alors, par exemple, là, dans cette matinée ludique, il va se passer quoi ?
Eh ben alors, ils viennent avec leur enfant, mais ils viennent aussi avec plein de... En général, ils apportent des gâteaux, des... Donc là, comme c'est le thème de la culture, chaque famille va apporter sa petite spécialité culinaire. Donc il y a bien sûr ce partage du goûter qui nous a beaucoup manqué pendant la période du Covid. Ouais. C'est un vrai frein, hein, au lien social. Alors on va faire des choses très concrètes. Alors il y a des activités qui sont prévues pour les enfants. Donc ça va de des tableaux. Ils peuvent faire des tableaux collectifs. Mm-hmm. Hein, vous aviez fait un grand cadre. Ça peut être donc des choses qui sont bien sûr adaptées aux enfants, de la lecture. Notre secrétaire qui lit les contes, effectivement, aime bien prendre ce temps avec les enfants. Donc toujours sur le thème du voyage. Et puis on a des choses beaucoup plus concrètes. C'est-à-dire qu'on fait aussi appel aux parents bricoleurs. Là, par exemple, on va fabriquer des bavoirs parce que la crèche manque toujours de bavoirs. Donc on avait déjà fait un atelier couture qui avait bien marché, donc on fait des choses en fonction des besoins de la crèche. Il y a eu un potager qui avait été fait. Là, on aimerait installer un abri poubelle. voilà, mais on n'a pas encore des parents qui se sont manifestés pour être bricoleurs haut de gamme.
Et vous avez évoqué la période du Covid, vous donc du coup qui crée de la distance finalement avec les parents et peut-être aussi avec les enfants, parce qu'on avait le masque, beaucoup de restrictions. Vous l'avez senti, vous, dans votre lien, Touria, avec les parents ?
Ah oui, bien sûr. Bien sûr qu'on l'a senti, parce que dans un premier temps, quand on a rouvert après la période de confinement, on ne pouvait pas accueillir les parents dans nos locaux. Donc, ils rentraient par le jardin. On avait les portes qui donnaient directement dans notre cour, et on les faisait rentrer comme ça. Donc, en plus du masque, ça faisait quand même plusieurs barrières. Mais c'est vrai que et le masque et le fait de pas pouvoir accueillir comme nous on le fait habituellement dans la section au sol, on invite même les parents à s'asseoir avec nous au sol. C'est vrai que ça. C'était quand même un...
Ça crée de la frustration un petit peu.
Oui, beaucoup.
Et je crois aussi que vous avez monté un partenariat avec une maison de retraite.
C'est un projet, oui, c'est un projet que l'on a monté. En fait, c'est une maman d'une enfant qu'on a accueillie pendant 2 ans à la crèche qui travaille dans une maison de retraite. Et on avait parlé une fois de ce projet intergénérationnel et on a voulu le mettre en place, mais malheureusement le Covid a pris sa place. Et on a pu, une fois elle m'a rappelé en me disant je fais venir une ferme pour les résidents de la maison de retraite, donc on peut peut-être commencer à expérimenter ce projet intergénérationnel en vous invitant avec les enfants à venir prendre le goûter et voir un petit peu les animaux de la ferme. Et c'était très chouette.
Et je crois que ça fonctionne bien ce
ça
genre
fonctionne
de projet.
Très bien. Oui,
c'est deux publics qui sont faits pour être
complètement
ensemble.
Complètement, oui. Comme une mamie avec son petit-fils, par exemple.
Ouais. Et puis, la notion du temps, en fait, les enfants n'ont pas la notion du temps et les personnes âgées ont du temps. Et donc, en fait, c'est vrai qu'il y a des passerelles évidentes qu'il faut créer entre ces deux générations, finalement.
Oui. Et Touria, avant notre prochaine pause musicale, est-ce que vous pourriez... finalement, qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos missions de directrice ? On va pas parler de ce qui est un peu pénible, plutôt de qu'est-ce qui vous donne le plus de satisfaction dans votre travail aujourd'hui?
Moi, je pense que le choix est difficile là, mais spontanément là, j'ai envie de vous dire la satisfaction des familles, tout simplement, quand je vois un parent qui part léger à son travail parce qu'il sait que son enfant est entre de bonnes mains, ça me donne pleine satisfaction.
Merci.
Merci.
Je vous propose d'écouter Brigitte Fontaine et M avec Il y a des azous et de se retrouver pour la dernière partie de l'émission sur IDFM. À tout de suite.
Terre, un homme pouvait être blanc ou noir, jaune ou rouge, et puis c'est tout. Mais une autre race est en train d'apparaître.
C'est les azous,
c'est les azous.
Un vocal qui monte jusqu'aux amygdales,
avec un veston qui descend jusqu'aux genoux,
les cheveux coupés jusqu'à l'épine dorsale.
Voilà les azous,
voilà les azous. Il y a des azous dans mon quartier.
Moi je le suis déjà à moitié.
À votre tour, âme de césure.
Vous serez tous azous comme nous, car le azous c'est contagieux.
Ça commence par un tremblement qui vous prend
soudain brusquement. Et puis on pousse des hurlements. What does you do, do, do. Si vous rencontrez un jour sur votre passage un particulier coiffé d'un fromage mou, tenant dans ses doigts un poisson dans une cage, c'est un zazou, c'est un zazou. Si votre officier vous dit j'ai de gruyère, mais malheureusement il ne reste que les trous, ne supposez pas qu'il fût de la cafetière. Il est zazou, il est zazou, il y a des zazous dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié, un de ces jours ça vous prendra. À son futur gendre avant-hier, ma concierge disait, voyez-vous, ma fille est un bijou. Elle est encore mieux que si elle était vierge. Elle est zazou. Et en prenant le train, j'ai vu le chef de car qui m'a dit, mon chat, je suis plus cocu du tout. Je suis quelque chose de beaucoup plus rare. Je suis zazou, je suis zazou. Il y a des zazous dans mon quartier. Moi, je suis déjà à moitié. Un de ces jours, ça vous prendra. À la société, devant payer sa dette. Devant la guillotine, Jajani dit, je m'en fous. Il y a déjà longtemps que j'ai perdu la tête. Je suis Azou, je suis Azou. Avec une mondaine de la place Pigalle, mon ami Léon a fait les 400 coups. Ça lui réussit qu'à pour ses 25 balles. Il est Azou, il est Azou. Il y a des Azou dans mon quartier. Moi je suis déjà à moitié. Et à mon tour un de ces jours, on finira par m'amener dans un asile d'aliénés. Entre Azou on s'y retrouvera. Car c'est faux ce qu'on rigolera. Quand je me les douche, on chantera comme ça.
Vous êtes toujours dans l'émission La Parole aux associations avec l'association Opticœur, crèche associative sur la ville d'Aubonne pour le moment. Alors, pendant la pause musicale, Touria, vous racontiez une anecdote qu'il faut que vous nous racontiez brièvement parce que le temps tourne, mais quand même, c'est une belle illustration du pouvoir qu'a la crèche et ses équipes et le rôle d'accompagnatrice que c'est vous ça. Avez toutes dans l'éducation des enfants et l'épanouissement surtout personnel des enfants.
Oui, tout à fait. Et le conseil aux parents. Oui, en fait, je racontais tout à l'heure que on avait une petite fille en début d'année qui dormait encore dans le lit de ses parents, comme beaucoup. Et donc, on a profité du fait que nous, à la crèche, elle dorme dans son lit. On en a profité pour conseiller parce que ça devenait difficile. Les nuits devenaient difficiles dans leur domicile. Et donc, on a conseillé vivement aux parents de la mettre dans son lit, puisqu'elle était capable de le faire à la sieste, à la crèche.
Oui, donc à la crèche, elle s'endormait tranquillement dans son petit lit.
Tout à fait. Alors nous, il faut savoir que dans les dortoirs, il y a toujours un adulte. Hein, c'est une question de sécurité. Mais l'adulte, voilà, est dans la même pièce. Donc l'enfant sait qu'il y a un adulte, mais voilà, ça s'arrête là.
Et vous ne vous mettez pas à côté à faire des papouilles?
Ça peut arriver des fois pour consoler, pour rassurer, mais pas plus que ça, voilà. Et on a beaucoup échangé sur ce sujet avec les parents, le papa notamment, et donc il s'est lancé, il s'est dit c'est vrai que si elle est capable de le faire à la crèche, on va essayer aussi à la maison. Et donc la première nuit, elle a pleuré évidemment pour dire qu'elle était pas d'accord avec ça. Et puis le lendemain, on en a reparlé, on a encouragé à continuer. Et donc ils ont continué. Je crois que c'était réglé en 2-3 nuits. Et les parents étaient ravis de retrouver du calme dans leur sommeil.
De retrouver un sommeil. Parce que c'est dévastateur, manquer de sommeil sur du long terme.
Et les parents étaient très reconnaissants, autant dans les mots de nous offrir aussi des petites choses. Mais c'est vrai que ça, c'est une satisfaction. De se dire, on peut accompagner. Pour nous, c'est rien, mais quand on voit le parent avec le sourire le matin en disant elle a dormi toute la nuit dans son lit, ça nous paraît rien du tout pour nous, mais pour eux c'était vraiment énorme.
Et familial, c'est énorme.
Le sommeil est très essentiel. Donc voilà, donc ouais, c'est du soutien à la parentalité.
Oui, c'est pas juste voilà, le métier de directrice, c'est pas juste de faire tourner la crèche dans son fonctionnement quotidien, non, c'est aussi et presque
conseiller, être à l'écoute, c'est super important, accompagner, ça fait vraiment partie de notre je parle pas que de moi, hein, je parle aussi de mon équipe, on est au quotidien auprès des familles et voilà, il y en a qui sont plus dans le besoin que d'autres de conseils.
Alors Tania, vous êtes responsable de développement au sein de donc de l'association. Alors vous êtes plus bénévole, c'est ça maintenant, vous êtes salariée.
Voilà. Alors avec les années, on savait qu'il y avait on sait qu'il y a des besoins qui sont importants. Le modèle associatif, on y croit énormément parce que bon, on sait que les crèches privées se multiplient, que les crèches municipales, ben, ne peuvent pas non plus être extensibles de manière illimitée. Mais c'est vrai que bénévolement en tant que présidente, j'avais ni le temps ni l'énergie pour me pencher sur cet essaimage, ce projet d'essaimage. Mes enfants avaient grandi, donc j'avais dit que j'allais reprendre un travail. En fait, voilà, je m'étais fixé aussi cet objectif. J'ai réfléchi, puis je me suis dit, mais en fait, c'est quand même mon bébé entre guillemets. Donc j'ai pas envie de le lâcher comme ça. Donc j'ai quitté effectivement la présidence parce que bien entendu, il faut être en règle. Hein, je peux pas être jugée partie. Célia, donc c'est vrai que c'est un poste qui est assez prenant. Donc en fait, bien entendu, qu'on a fait appel aux parents. On n'a pas eu le temps de préciser, mais évidemment, le conseil d'administration est composée de parents ou d'anciens parents, exclusivement, alors, ou une grand-mère qui avait son enfant. Voilà, donc il y a un vrai élan démocratique derrière tout ça. Donc, mais aucun parent, évidemment, hein, ne voulait prendre ce poste de présidente. Donc Célia a accepté de troquer sa casquette de trésorière vers présidente. On a une ancienne maman dont sa fille a 6 ou 7 ans aujourd'hui, qui a gentiment accepté de prendre la casquette de trésorière et qui le fait à merveille également. Et donc ça m'a pu me libérer pour créer mon propre poste, trouver les financements et puis donc je suis à temps partiel sur cette fonction.
Et la transition s'est faite facilement de passer de présidente à finalement salariée de l'association. Est-ce que par rapport, je sais pas, peut-être en interne, mais aussi par rapport aux partenaires, pour eux, ça n'a pas changé la donne vous ayez une nouvelle casquette.
Alors dans les faits, ça change pas grand-chose parce qu'effectivement, je suis toujours l'interlocuteur. Alors la présidente Célia, évidemment, elle est aussi bien présente et on se consulte quasiment tous les jours. Donc on travaille vraiment duo, mais dans les faits, moi j'ai plus de temps qu'elle, puisqu'elle travaille à plein temps. Donc vis-à-vis des partenaires, pas trop. Si des partenaires tout bêtement comme la banque, parce que du jour au lendemain, j'avais plus aucun pouvoir. Donc je viens chercher un carnet de chèques, on me dit mais vous êtes qui ? Voilà, donc ça c'était un petit peu bon. Mais sinon, ça, moi personnellement, ça change dans ma position vis-à-vis surtout de l'équipe, parce que avant effectivement j'étais présidente, donc
employeur.
Casquette employeur, exactement. Et aujourd'hui, même si avec Touria on est en relation bien sûr privilégiée. Et avec le reste de l'équipe, dès que j'y passe, il faut que je fasse attention à. Je n'ai plus cette casquette employeur vis-à-vis d'elle.
Alors, on a compris que c'était pas une mince affaire de monter, de créer une crèche, mais ça vous a pas suffisamment découragé parce que voilà, votre titre c'est responsable de développement, donc ça veut dire qu'il y a des projets d'essaimage d'opticœurs. Alors est-ce que ça continuera à s'appeler opticœurs et que vous allez finalement créer une chaîne? Mais là, quel est le projet? Quel est le prochain projet?
Alors on y a réfléchi pendant pas mal d'années, hein, de savoir est-ce qu'on allait si on allait se développer, est-ce qu'on allait créer une association à chaque fois dans les villes où on allait se développer, créer une nouvelle association, est-ce qu'on allait, on a réfléchi à se transformer en SCOP, en SIC, en entrepreneuriat salarié, enfin on a pensé à toutes les solutions. Finalement, on s'est dit que Opticœur est quand même connu, se développe bien. On a obtenu le label ESUS, ce qui est aussi notre fierté parce que du coup ça met en valeur quand même tout cet engagement bénévole au sens noble du terme, et Donc on s'est dit, bah non, en fait, on reste sur Opticœur. C'était d'ailleurs écrit dans les statuts au départ qu'on pouvait avoir plusieurs structures. Donc je ne sais pas si on va l'appeler Opticœur 1, Opticœur 2, enfin j'en sais rien, mais toujours est-il qu'aujourd'hui, on a un projet qui, ça y est, qui va être signé à Domont, donc une ville qui est à 5 km de Bonne. Et donc étant là, on est parti avec un bailleur social, donc là qui a démarré les travaux. Donc là, on va pas louer un bâtiment à la ville, mais au bailleur social pour une ouverture en septembre 2024 et la ville souhaite réserver la totalité des places en versant une subvention en contrepartie.
Donc 2024, c'est encore dans quelques temps et en même temps c'est demain. Mais là, pour le coup, vous avez mis moins de temps que la première fois. Si je compte, on est quoi, 2022? Oui, deux, trois ans.
Ben, je pense que la crédibilité, aujourd'hui, ils voient comment fonctionne Opticœur, ils en voient les retombées, les échos sont très positifs, sans vouloir nous mettre trop en valeur, mais donc c'est beaucoup plus facile, alors qu'avant, on partait de rien, et puis on a une trésorerie qu'on a réussi à stabiliser, on a une équipe qui est solide, donc tout ça, c'est, oui, bien sûr qu'en termes de crédibilité, c'est plus facile.
Alors, de quoi vous avez besoin aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous manque? C'est le moment de nous dire si vous cherchez des intervenants, si vous cherchez des bénévoles, si vous cherchez des sous pour un projet.
Alors nous, très concrètement, aujourd'hui c'est Domont, ça fait un an qu'on est en recherche de développement, et qu'est-ce qui bloque? C'est la recherche d'un local. On a beaucoup de villes alentour qui étaient vraiment à fond pour participer avec nous sur ce projet, mais à condition qu'on trouve un local. Donc ça, c'est une vraie demande de l'association si on veut continuer à pouvoir essaimer et donc faire des petits.
Et après, à Domont, une fois que ça va être concret, c'est-à-dire un local aménagé, mm-hmm. vous allez chercher des équipes, j'imagine.
Oui.
Vous avez déjà des contacts un petit peu avec, je sais pas, le milieu associatif pour les intervenants, ou tout est à construire?
Alors pour l'instant non, c'est-à-dire que oui, bien sûr qu'on a, alors on a l'équipe de salariés qui est sur Aubonne, donc on va évidemment, on en parle régulièrement à Touria, qui va on va la mettre en lien également sur toute la partie pédagogique, puisque Célia et moi étant juristes, on n'a pas de compétences petite enfance. On n'a pas plus réfléchi que ça. Il y a un vrai sujet aujourd'hui, bien sûr, qu'on peut pas négliger, c'est la pénurie des professionnels. En structure petite enfance, vous voulez peut-être ce sera mon mot de la fin.
Un grand merci Tania, merci. Et Touria d'être venus nous présenter votre association Opticœur. On arrive à la fin de cette émission, mais avant de se quitter, comment peut-on vous contacter?
Par mail, par téléphone, sur le site internet de
On Opticœur. Vous trouve facilement sur Opticœur. Alors ça s'écrit comment, votre
opticœur.fr.
Très bien. Merci beaucoup, Tania et Touria. J'ai été ravie de partager cette heure avec vous.
Également. Merci beaucoup.
Un grand merci à Francky pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, je vous donne rendez-vous mercredi 7 décembre pour découvrir ou redécouvrir une association valide.